J'entends dire parfois qu'aujourd'hui, on ne prêche plus le retour du Seigneur. Vous l'avez peut-être entendu aussi. Et sincèrement, je crois que c'est faux. Alors c'est vrai qu'il y a un temps, quelques années, où c'était presque le seul sujet de prédication. Il ne pouvait pas y avoir une prédication sans qu'on passe la moitié du temps à parler du retour du Seigneur. Selon peut-être un schéma un peu prédéfini, en tout cas bien précis, qui était basé sur l'interprétation plus ou moins hardie des prophéties bibliques et une certaine lecture, parfois discutable, des événements contemporains. Alors c'est vrai, peut-être qu'aujourd'hui, on entend beaucoup moins prêcher le retour du Seigneur de cette façon. Et je ne suis pas sûr que ce soit un mal. Parce que je ne suis pas sûr que cette façon-là rendait justice à l'enseignement biblique globalement. Parce que bien plus que de nous procurer un calendrier détaillé des événements à venir pour la fin du monde, à la manière d'une boule de cristal ou d'un écrit de Nostradamus, la Bible, certes, nous donne un horizon, celui du retour du Seigneur, ce que nous attendons, mais d'abord, pour nous interpeller aujourd'hui, pour interpeller notre présent et nous dire, mais ayant cette espérance, ayant cet horizon du retour du Seigneur, qu'est-ce que ça change pour moi aujourd'hui? La liste de lecture nous propose pour ce dimanche trois textes. Nous allons les lire les trois. Trois textes qui, pour ce premier dimanche de l'Avent, nous invitent à tourner nos regards vers cet horizon de lumière, celui du retour du Seigneur. Le premier texte, nous le trouvons dans le prophète Ésaïe, au chapitre 2, les versets 1 à 5. Ésaïe 2, versets 1 à 5. Parole d'Ésaïe, fils d'Amoz, ce qu'il a vu au sujet de Juda et de Jérusalem. Dans la suite des temps, la montagne de la maison du Seigneur sera établie au sommet des montagnes. Elle s'élèvera au-dessus des collines et toutes les nations y afflueront. Une multitude de peuples s'y rendra. Ils diront, venez, montons à la montagne du Seigneur, à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseignera ses voies et nous suivrons ses sentiers. Car de Sion sortira la loi, de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera juge entre les nations, il sera l'arbitre d'une multitude de peuples. De leurs épées, ils forgeront des socs de charrues, de leurs lances des serpes. Une nation ne lèvera plus l'épée contre une autre, et on n'apprendra plus la guerre. Maison de Jacob, venez, marchons à la lumière du Seigneur. Le deuxième texte se trouve dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 13, les versets 11 à 14. Romains 13, 11 à 14. Vous savez en quel temps nous sommes. C'est bien l'heure de vous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus proche de nous que lorsque nous sommes venus à la foi. La nuit est avancée, le jour s'est approché. Rejetons donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Comportons-nous convenablement, comme en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans luxure ni débauche, sans dispute ni passion jalouse, mais revêtez le Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de la chair pour en satisfaire les désirs. Et le troisième texte de l'Évangile, selon Matthieu, au verset 24, au chapitre 24, pardon, les versets 37 à 44. En effet, dit Jésus, comme ont été les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En effet, aux jours qui précédèrent le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors de deux hommes qui seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé, des deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne se permettrait pas qu'on fracture sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Voilà trois textes que nous venons de lire et qui, dans lesquels il est question de nuit et surtout de lumière. Ésaïe, lui, insiste sur la perspective d'une paix universelle. On n'apprendra même plus à faire la guerre. D'une fraternité entre les peuples. Tout cela basé sur une connaissance universelle de Dieu. Il n'y est dans ce texte, pour ainsi dire, que question de lumière. Lumière éclatante. Pour Paul, la nuit est avancée. Le jour commence à poindre. Il est donc temps maintenant de sortir du sommeil et de se mettre en marche, et même de se lancer dans le combat. Il faut alors se dévêtir de ce qu'il appelle les œuvres des ténèbres pour se revêtir de ce qu'il appelle les armes de la lumière et vivre en plein jour, avoir une conduite irréprochable. Pour Jésus, enfin, il est aussi question de nuit, mais une nuit qui crée l'incertitude. On ne sait pas quand le voleur peut venir. On oublie parfois que le déluge peut arriver. Et c'est pourquoi, à cause de cela, il nous invite à veiller, être vigilant. On pourrait dire qu'Ésaïe voit au-delà même de l'horizon, là où le soleil de notre espérance est pleinement levé. Alors que Paul et Jésus décrivent plutôt la nuit dans laquelle nous nous trouvons, mais qui prendra fin un jour, dont le jour même commence à poindre. Nous sommes dans l'attente de l'aurore au milieu de la nuit, et nous savons que cette aurore va venir. Le temps de l'Avent, qui commence ce dimanche, est un temps qui nous prépare à la lumière de Noël, celle de la venue du Fils de Dieu sur la terre. Mais ce temps de l'Avent nous rappelle aussi chaque année que nous sommes aujourd'hui encore dans l'attente de la venue, ou plutôt du retour du Seigneur. Nous sommes dans l'attente de la pleine lumière de son avènement. Quelle est la juste perspective, l'attitude appropriée que nous sommes appelés à avoir dans cette perspective du retour du Seigneur? Gardons une exhortation de chacun de ces trois textes. Le texte d'Ésaïe nous invite à garder en vue cette aurore qui poind. Il est évident que quand on regarde autour de nous, pas besoin de regarder bien longtemps pour se rendre compte que notre monde ne va pas très bien. Les catastrophes, la précarité, la crise économique, les guerres, les injustices et les inégalités sociales, et on pourrait multiplier à l'infini presque cette liste, notre monde ne va pas bien. Et à force, on pourrait risquer de perdre toute espérance dans ces ténèbres du présent, de nous laisser gagner par cette morosité, de broyer du noir finalement. Et il y a des textes dans l'Écriture, comme ce texte d'Ésaïe 2, qui sont là pour alimenter, malgré tout, notre espérance. Des textes qui sont là pour nous inviter à ne pas nous laisser désenchanter par un monde où tout a tendance à aller mal. Nous avons une espérance. Nous l'avons. Cette espérance, nous pouvons la vivre, nous pouvons la proclamer. Cette espérance, elle repose sur la lumière de la résurrection, du Christ ressuscité. Et elle transparaît dans les promesses que l'Écriture nous donne de la pleine lumière à venir. Oui, le Seigneur va établir son règne au jour du retour de Jésus-Christ. Notre espérance est là. Et nous croyons qu'alors, le règne de paix et de justice s'établira dans le monde. Ces textes, comme ceux d'Ésaïe, ne sont pas simplement des utopies naïves qui nous permettraient d'oublier le présent. Non, c'est vraiment l'horizon de notre espérance qui nous permet d'avancer malgré les ténèbres de notre présent. Il y a un horizon de lumière. Si nous regardons au loin, vers l'accomplissement des promesses de Dieu, il y a un jour qui se lève. C'est un horizon et ce n'est qu'un horizon. Ne brûlons pas pour autant les étapes. J'avoue que personnellement, des fois, je suis un peu mal à l'aise avec certains cantiques. Tiens, il se trouve que Christian a changé, je ne pense pas à ce cantique-là en particulier, a changé les paroles du cantique. Des fois, j'ai envie de changer les paroles d'autres cantiques qui laissent entendre que la gloire, finalement, c'est déjà maintenant. La guérison, la bénédiction, l'abondance, c'est maintenant. J'ai l'impression que là, on oublie la réalité des choses et qu'on oublie que notre espérance est un horizon à venir. Sans laisser les ténèbres d'aujourd'hui éteindre la lumière de l'espérance, restons lucides pour ne pas confondre l'horizon et le présent aujourd'hui. Mais gardons en vue cette aurore qui pointe à l'horizon. Pour Paul, la nuit est avancée, on l'a dit. Et il nous invite à revêtir les armes de lumière. Il nous adresse un appel, sortons de notre sommeil, réveillons-nous, levons-nous, allons au combat. Rejetez les œuvres des ténèbres et revêtez les armes de la lumière. Cette image du combat nous montre que nous devons revêtir une armure pour partir sur le champ de bataille. Imaginez un soldat qui se réveille au milieu de la nuit et qui va sur le champ de bataille sans se changer en pyjama. Il ne va pas rester longtemps debout, hein. Il y aura quelques petits problèmes quand même. Il ne faut pas se tromper de combat pour autant. Vous remarquerez peut-être que dans le texte de l'Épître aux Romains, les disputes font partie des œuvres de la chair. Il y a l'orgie, la débauche, etc. Voilà, on dit, oh ben ça ne nous concerne pas. Mais il y a aussi les disputes et la jalousie, d'ailleurs. Tiens, ça nous concerne un petit peu plus déjà, peut-être. Et peut-être que le mot de dispute ici pourrait s'appliquer peut-être aussi à certaines disputes théologiques vaines en lien avec le sujet qui nous intéresse ce matin. Le combat à mener dans l'espérance que nous avons n'est pas celui du combat pour le meilleur schéma eschatologique, le plus juste, le plus conforme à la réalité, ou celui de la meilleure prédiction capable de définir derrière tel ou tel homme l'Antichrist, ou de déchiffrer enfin le mystère du 666, le chiffre de la bête. Il y a eu des disputes, il y en a peut-être encore sur ces sujets-là, mais en oubliant peut-être l'essentiel. L'apôtre Paul ici veut recentrer sur le cœur du problème. Revêtir les armes de la lumière, c'est veiller sur sa conduite. Parce que ce dont il est question, les habits dont il est question ici, c'est notre conduite. C'est une image pour notre façon de vivre. Alors il faut se dévêtir de ce qui ne convient pas à la lumière que nous attendons, les œuvres des ténèbres. Et il faut se revêtir de ce qui correspond à cette lumière qui vient, les armes de la lumière. Et dans cette perspective-là, l'apôtre Paul nous dit de vivre en plein jour. Autrement dit, que notre conduite témoigne du jour qui vient, de la lumière du Seigneur. Et avoir une conduite irréprochable, avoir une vie aujourd'hui, malgré les ténèbres, éclairée par la lumière de Dieu, vous le savez, hein, c'est un vrai combat. C'est pas facile. C'est une vraie lutte. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul parle d'armes et d'armure à revêtir. C'est pas facile de vivre selon la lumière de Dieu aujourd'hui dans notre monde. C'est s'exposer à des épreuves, à des difficultés, à de l'adversité. Et une armure n'est pas de trop. Or, cette armure que nous sommes appelés à revêtir, si on regarde bien le texte de l'Épître aux Romains, c'est le Christ lui-même. Revêtez-vous de Jésus-Christ. Le Christ lui-même, notre salut, notre espérance. Lui-même n'a-t-il pas été la lumière au milieu des ténèbres du monde? N'a-t-il pas lui-même connu l'opposition, l'adversité qui l'a conduit jusqu'à la mort sur la croix? Jésus n'a-t-il pas dit que le disciple n'est pas plus grand que son maître? Que s'il a été haï, s'il a connu l'adversité, nous aussi, nous connaîtrons l'adversité. Oui, c'est un combat. C'est une lutte à mener, mais une lutte qui en vaut la peine. Parce qu'au milieu des ténèbres de notre monde, nous pouvons être animés de la lumière du Christ ressuscité, de la pleine lumière de cet horizon de notre espérance. Pour Jésus, dans le texte de Matthieu, pour Jésus, nous sommes encore dans la nuit. Une nuit source de danger, d'incertitude. On ne sait pas quand le voleur peut venir. Et vivre dans l'insouciance, dans l'incompréhension de cela, sans attendre la venue du Seigneur, c'est vivre un peu comme les contemporains de Noé qui n'ont pas vu le déluge venir et qui ont été surpris. C'est pourquoi Jésus nous dit de rester éveillés au milieu de la nuit. Veillez, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Dans cette exhortation de Jésus, je vois une confirmation et une exhortation. Une confirmation de ce que nous avons déjà dit. Ne cherchons pas à connaître, à deviner, à prédire le moment de la venue de Jésus. On ne peut pas le savoir. Jésus pourtant est clair. Vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Et pourtant, dans l'histoire et aujourd'hui encore, combien de chrétiens même n'ont cessé d'élaborer des schémas avec parfois des durées précises, voire même des dates concernant le retour du Seigneur. Alors que Jésus lui-même dit explicitement, vous ne pouvez pas le savoir. Il n'y a pas pire sourd que celui qui ne veut pas entendre. Hein. Le Seigneur nous dit, veillez. Vous ne savez pas le jour où le Seigneur reviendra. Mais derrière cette exhortation de veiller, il n'y a pas celle d'élaborer des schémas, mais il y a une triple exhortation pour moi. Veiller, c'est d'abord rester éveillé, rester en éveil. Autrement dit, ne pas se laisser gagner par le sommeil, la lassitude. Le Seigneur, nous attendons le retour du Seigneur. Les chrétiens l'attendent depuis 2000 ans, c'est vrai. Ça peut paraître long. Et dans notre vie, on peut l'attendre aussi et que ça puisse nous paraître long. Et peut-être que la lassitude peut nous gagner. Et c'est facile pour le chrétien, pour tout chrétien, de se laisser gagner par la routine d'une vie chrétienne un peu plan-plan, des habitudes, et puis on s'endort, on s'assoupit, on n'est plus vigilant, on est endormi. Restez en éveil, nous dit le Seigneur, restez en éveil. Et puis veiller, c'est surveiller, c'est observer, c'est regarder autour de nous, être vigilant face à ce qui nous entoure, et notamment face aux dangers qui peuvent se présenter. Jésus compare ici le danger à celui d'un voleur, mais il y aurait bien d'autres dangers auxquels nous sommes soumis en tant que disciples du Christ, et que si nous ne sommes pas vigilants, nous risquons de tomber dans le piège. Et puis je crois que malgré tout, veiller, c'est aussi avertir, faire le rôle peut-être d'une sentinelle qui veille et qui avertit. Parce que nous avons un message à proclamer. L'évangile dont nous sommes porteurs par la grâce de Dieu, c'est bien sûr affirmer que Jésus-Christ est venu il y a 2000 ans, qu'il a vécu sur cette terre, qu'il a souffert, qu'il est mort et qu'il est ressuscité. C'est affirmer aussi qu'il est retourné auprès du Père, mais c'est aussi affirmer qu'il reviendra établir son règne de justice et de paix, qu'il reviendra pour juger les vivants et les morts. L'évangile, c'est aussi cela. Et lorsque nous le proclamons, nous pouvons proclamer cette espérance. Nous sommes dans l'attente du retour de Jésus-Christ. Alors, ce matin, pour conclure, je n'ai pas parlé de millénium, je n'ai pas parlé de grande tribulation, d'enlèvement de l'Église, je n'ai pas parlé de schéma eschatologique, je n'ai pas proposé une compréhension du chiffre de la bête, où j'ai pas cherché à identifier derrière telle ou telle personne l'Antichrist. Remarquez, c'est normal, les textes que nous avons lus n'en parlent pas. Pour autant, n'ai-je pas parlé du retour du Seigneur ? Jésus-Christ est venu il y a 2000 ans. Et ce premier dimanche de l'Avent, aujourd'hui, nous rappelons cela. Mais il va revenir, nous l'attendons et nous le proclamons. Cette proclamation, elle doit avoir un impact dans notre vie aujourd'hui, dans notre façon de vivre. Gardons les yeux fixés vers l'horizon de notre espérance. Ne nous laissons pas désenchanter par notre monde aujourd'hui. Revêtons les armes de la lumière pour mener le bon combat de la foi, de l'espérance, de l'amour. Et restons éveillés, vigilants, pour que nous soyons prêts à l'accueillir le jour où il viendra. Amen.